L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Odéon Leicester Square, au cœur de la ville de Londres. Il est 20h50. Nous sommes le 13 juin 1989. Les flashs crépitent. Les paparazzis attendent la voiture du prince de Galles. Charles et son épouse, la magnifique princesse Diana, vont bientôt faire leur apparition à l'avant-première mondiale du nouveau film de la franchise Bond. Le 16e en fait. Voilà une série entrée dans la légende. Et ce n'est pas Albert Romolo Broccoli qui se tient tout près du tapis rouge qui dira le contraire. Les films 007, c'est lui. Dans quelques minutes maintenant, ce génial producteur dévoilera au monde entier son tout nouveau bijou. Le dernier de sa magnifique carrière. 20h50, l'heure H de mon récit. El Signore Broccoli n'est déjà plus un débutant, au début de cet été 1989. Voilà un homme qui, parti de rien, a le monde, et plus particulièrement le monde artistique, à ses pieds. Et ce, depuis près d'un demi-siècle. Ah, il faut dire que sa réussite force le respect. Cubby, son surnom dans le milieu, a très vite compris que la filière de Fleming était une poule aux œufs d'or. Et ce, avant tout le monde. Des ennemis, il en a eu. Ils sont même présents ce soir. Ils attendent sagement l'arrivée de ses invités de marque. C'est souvent le signe ultime de la réussite. Des sourires devant vous et des quolibets derrière. Mais il s'en fout, Cubby, qu'on lui prête tel ou tel défaut une fois qu'il a tourné les talons. Le parfum du scandale est mieux, celui de la jalousie. Il adore ça. Derrière lui, les appareils photo et les caméras attendent le couple le plus bankable de l'histoire. Lui, seul au bout de ce tapis rougeoyant, accessoire indissociable de la gloire et du prestige, sort un de ses cigares cubains. Son zippo doré n'est jamais loin, et l'éclat de sa chevalière en ambre portée au petit doigt donne à la flamme des lueurs dansantes. L'un ou l'autre photographe le prend en photo et lui les salue de sa canne. Sa Rolex au poignet, il note que les tourtereaux, encore, ont du retard. Mais peu importe. Tout est calibré en fonction de leur arrivée sur les lieux. Ce nouveau Bond, Permis de tuer, est le deuxième film avec le talentueux Timothy Dalton, interprétant le célèbre espion. Il n'a pas été hyper convaincu du précédent opus, Tuer n'est pas joué. Il a voulu créer un univers plus sombre, presque morbide, autour de ce nouveau film qui est aussi son dernier. Il ne l'a pas encore annoncé, mais le monde du cinéma sera bientôt mis au courant de sa retraite. Heureusement. Sa société Eon Productions va rester entre les mains de la famille. Et ça, pour l'imposant rock d'origine italienne, c'est certainement le plus important. Au loin, dans le hall d'entrée, Like a Prayer de Madonna, le dernier tube à succès de la star de la pop, résonne entre les murs. Certains invités se trémoussent, d'autres rigolent. Mais d'un signe, Cubby fait changer le morceau. Pas une plainte. Jamais d'ailleurs, quand il s'agit de ce que le boss réclame. Accueillir le couple de Galles sur une track dont le clip vient de réveiller le poussiéreux Vatican et l'église d'Angleterre, c'était particulièrement de mauvais goût. Les Red Hot Chili Peppers prennent le relais, ce qui ne semble pas contenter tout le monde, mais soit. Broccoli s'en contrefiche. Discrètement, derrière l'écran de fumée de son cigare, il appelle le directeur du cinéma et lui réclame un morceau italien. De la classe et de la fierté, nom de Dieu. Ras-le-bol de ce rock de midinette. Ah, c'est un personnage, hein, le Cubby. On ne peut pas dire le contraire. Sa fille, qui se tient sagement derrière lui, est prête à s'installer dans le fauteuil immense de cet incontournable du 7e art. Voilà qu'il se retourne vers elle, l'œil pétillant. Au fond de la rue, suivi par une horde de photographes en scooter, s'avance la voiture officielle du couple de Galles. Une Rolls. Broccoli hausse un sourcil. Sa cam à lui, ce sont les Aston Martin, pas les Rolls. La princesse de Galles sort donc de la voiture au son d'une musique italienne. La fille de Cubi est persuadée de reconnaître la Ragazza col Maglione, mais le brouhaha est tel qu'elle ne peut l'affirmer avec certitude. L'engouement autour de la princesse Diana est toujours aussi fabuleux, même après quasi 10 ans de mariage avec Charles, qui, avouons-le, n'a pas tout à fait le même charisme que son épouse. Déjà dans les cercles d'initiés, les rumeurs circulent sur leur complémentarité. Beaucoup disent qu'il y a de l'eau dans le gaz, mais Cubi est persuadé que ces bruits de couloir sont faux. Pour lui, la famille, c'est sacré. Quand on se marie, c'est pour la vie. Et puis, la loyauté qui va avec cet état d'esprit doit empêcher toute volonté de séparation. D'autant plus quand un jour, la couronne de souverain arrivera comme par magie sur votre tête. Alors, celui qui a célébré ses 80 ans en avril porte à Diana le plus sincère des baisements. La déesse lui adresse en retour un sourire destiné uniquement aux gens qu'on apprécie. Moulée dans une voluptueuse robe bleu clair, elle attend l'héritier du trône qui vient à son tour saluer le célèbre producteur. Rien d'étonnant de voir la famille royale assister à ses avant-premières. D'ailleurs, la princesse Margaret, la sœur de la reine, est une habituée de sa maison cossue londonienne. En adaptant les livres de Fleming, il rend service à l'Angleterre. Ça, il en est persuadé. Le bateau de guerre ultime, qu'a longtemps été l'Empire britannique, est depuis un moment en bout de course. Il ne fait plus qu'illusion. La monarchie règne dans un régime fantoche où le poids des traditions et la saveur de la gloire passée sont au menu quotidien. En fait, pour le dire plus clairement, Cubi, qui adresse maintenant à Charles un sourire de circonstance, est persuadé que Bond est le dernier maillon qui sert à faire briller une gloire révolue et qu'il permet de faire illusion. La Grande-Bretagne est au cœur de la résolution de tous les conflits mondiaux uniquement parce qu'il existe. Elle est donc partie prenante de manière totalement fictionnelle. Mais ça, le public s'en fiche. Et pour être honnête, le ventripotent Brocoli, 120 kilos sur la balance le mois dernier, aussi. Marchant fièrement derrière leurs altesses royales, la canne en avant, le cigare toujours aux lèvres, l'as des as du cinéma d'après-guerre sourit fièrement aux caméras. Allez, Cubi, la gloire, une dernière fois. Dans le hall, Diana semble enfin respirer. Les flashs maintenant se taisent. Les portes se referment et les invités, habillés en pingouins à midonnée ou en robe dépourvue de plis, s'installent dans la salle. Les effluves de parfums se mélangent et troublent les esprits. Certains hommes fument déjà. Le couple princier s'est confortablement assis dans les hauteurs de ce cinéma le plus huppé de la capitale. Finalement, les lumières s'éteignent, les haut-parleurs s'allument et la musique d'ouverture retentit. À l'écran, Timothy Dalton, coupe de cheveux impeccable, brossé par le vent, semble accueillir les spectateurs de sa mine sombre et sa tension palpable. Brocoli, installé au fond de la salle, appuyé sur sa canne, attend la fin de la scène d'ouverture. Ensuite, il sortira. Il a un dernier cigare à fumer. Notre histoire commence le 30 mars 1962. Il est un peu plus de 14 heures. Dernier clap, dernière scène. James Bond contre le docteur No est dans la boîte, prêt à sortir. Mais alors que Sean Connery essuie la sueur qui perle sur ses tempes et que toute l'équipe, des cadreurs au réalisateur, vient le féliciter, Albert Broccoli, lui, s'inquiète. Il s'inquiète beaucoup même. Le budget du premier film James Bond a été dépassé de près de 200 000 dollars sur le million prévu au départ. Une catastrophe à venir si les résultats ne dépassent pas les attentes. Il sera bon à vendre son caleçon. Sa carrière de producteur de cinéma en prendra un coup qui risque d'être fatal. Il est loin d'être idiot, Brocoli. Il sait bien qu'il a affaire à un monde de requins. Pendant qu'il compense son stress de la meilleure des manières possibles, en mangeant un hot dog bourré de ketchup, d'oignons frits et de moutarde, Ian Fleming entre dans son bureau. Il arrive avec un manuscrit entre les mains, son deuxième roman écrit en quelques semaines seulement. Emballé comme tout, le romancier s'effondre face au mur d'anxiété de Cupid. Il lui annonce que, pour tourner un deuxième film, il va déjà falloir réussir le pari du premier. Et là, tout de suite, le producteur est presque persuadé que la tâche sera trop difficile. Pourtant, ils ont mis toutes les chances de leur côté. Le tournage s'est quasiment entièrement déroulé en Jamaïque. Certaines scènes ont été tournées dans la maison même de l'actrice qui joue la première James Bond Girl. Grande ferveur dans ce petit pays d'Amérique du Sud. Les équipes de tournage y sont devenues de véritables stars. Tous les choix faits par Broccoli auraient pu être sujets à caution. Petit budget dit petit casting. Petit matériel et solutions de débrouille. Première chose, le choix de l'acteur incarnant le célèbre espion. Cuby impose Sean Connery à son réalisateur. Il l'a rencontré sur un tournage précédent et il a flashé sur le potentiel de ce mec au charisme évident, mais qui est encore au frémissement de sa carrière. Jamais un grand rôle pour l'immense Écossais. Pas même un film primé dans un festival de seconde zone. La prise de risque est donc immense. Le parcours de la superstar en devenir est alors très loin d'être tracé. Il est né dans une famille pauvre, contraint de prester une multitude de petits boulots pour subvenir aux besoins des siens. Il se dévoile à la face du monde en postulant au concours de Mister Univers, 5 ans avant le tournage du premier Bond. Il est terrifié lorsqu'on le sélectionne pour jouer l'espion. Et sans le soutien du réalisateur, Terence Young, qui le connaît déjà, il n'aurait jamais pu prendre la mesure du rôle de 007. Le rôle de Bond, check. Mais 2 semaines avant le tournage, aucune actrice n'a été choisie. La figure de James Bond Girl n'est pas encore définie. Ce n'est que le tournage de ce premier film qui va imposer la présence d'une héroïne à chaque film de la saga. Et bien plus que les seconds rôles, les superbes actrices qu'il aura à son bras seront bientôt ses égales. Mais ça, ni Broccoli noyé dans son stress, ni Fleming, ni même Sean Connery ne le savent encore. C'est finalement la femme d'un autre acteur du film qui sera engagée sans même passer d'audition. Ursula Andress propulse la James Bond Girl dans la légende et dispose d'une aura toute particulière. Son bikini a été vendu plus de 40 000 livres sterling chez Christie's en 2001. Une folie qui montre bien toute la quintessence qu'incarne cette première partenaire de l'histoire de la série. Aston Martin, l'iconique marque de voiture indissociable de la figure de Bond, n'est pas encore au cœur de l'univers de la saga. Il a fallu, pour le premier film, faire avec de petits moyens. Une Alpine, une Vauxhall, une Triumph et 2 Chevrolet, toutes obtenues à prix réduit, sont les instruments de l'espion et des ennemis. Seule l'apparition d'un Boeing 707 va coûter à la production une rallonge non négligeable. La bande originale, qui revêt une importance primordiale pour chaque film, est réalisée par une équipe auparavant spécialisée dans les comédies musicales. Les questions ont donc été nombreuses quant au choix effectué par le producteur, mais le succès, en revanche, sera total. Les scènes emblématiques y seront légion. Y apparaît la fameuse réplique « Bond, James Bond », reprise dans la plupart des opus de la saga. Le Walther PPK, l'arme fatale, le 007, et sa passion pour les vodka martini au shaker, et non à la cuillère, sont également des héritages de ce premier film. Tout comme les figures de M, chef du MI6, et de Q, le fameux inventeur de gadgets qui fait ici sa première apparition sans avoir encore son rôle clé. Mais plus que toutes les autres séquences, toutes fidèles au livre de Fleming, c'est celle de l'apparition de la James Bond Girl, marchant dans l'eau au bord d'une plage, qui va susciter l'admiration. C'est l'une des scènes les plus appréciées de tous les films de la saga, sans aucun doute. Le film, tourné en Jamaïque et en petite partie dans des studios londoniens, sort en grande pompe, mais sans garantie de résultat cependant, le 5 octobre 1962. Et notre ami Cuby, bien qu'il soit mort de trac, va bientôt faire son entrée dans la cour des très très grand. Alors que tous raillent les folies financières qu'il a acceptées pour boucler le tournage, tous aussi bientôt ont fermé leur caquet. Alors que le prêt souscrit courait sur 18 mois, la banque va en perdre 15 d'intérêt. Oui, vous avez bien entendu. Le film est remboursé en à peine 3 petits mois et générera une recette mondiale de près de 60 millions de dollars. À ce stade, ce n'est plus un succès. C'est un chef-d'œuvre critique. Ursula Andress va gagner le Golden Globe de la révélation féminine de l'année. Sean Connery signe pour de nouveaux opus et la saga James Bond, elle, va enfin pouvoir débuter. Fleming, la plume bouillante à force d'écrire, n'en demandait pas tant. Le truculent Cubby, non plus. Cet immense succès commercial leur ouvre de nouvelles perspectives. Ce premier essai devient une série et les films vont sortir de manière rapprochée. Sean Connery devient une référence, participe au fait de transformer les films d'espionnage en véritables œuvres à part entière. Il réinvente le style du gentleman anglais flegmatique, y apportant un soupçon de violence et de rébellion. Le tout dans une extraordinaire démonstration de séduction et de multiplication des conquêtes, toutes plus fabuleuses les unes que les autres. Par cette fois, dont 6 pour le label de Broccoli, Connery incarnera le plus célèbre des agents. Il y popularisera les Aston Martin DB5, rendra la marque célèbre. La figure de James Bond passera à la postérité grâce à lui. Sa carrière ensuite sera lancée. Et alors qu'il meurt en 2020 de son grand âge, une DB5 dans la cour de la propriété l'accompagnera dans son dernier voyage. Alors certes, les 6 premiers opus sont animés de l'âme de cet acteur extraordinaire. Il a créé lui aussi James Bond. Pour être plus juste, il a été un James Bond. Mais là où Broccoli et Fleming ont eu un coup de génie absolu, c'est sur le changement nécessaire d'acteur. D'abord parce qu'il est indispensable d'avoir un homme dans la force de l'âge pour faire exister 007. Mais aussi, et là le producteur historique voit plus loin, il mise sur le renouvellement du rôle principal afin que chaque interprète puisse lui donner de nouveaux traits de caractère, une nouvelle âme. Lorsque la figure de Bond est évoquée encore aujourd'hui, Connery est certainement l'un des premiers noms qui vient à l'esprit. Mais ce serait une erreur d'oublier la première génération de ceux derrière la caméra, en premier lieu Broccoli. Il a assurément œuvré à créer le mythe de 007 qui est né sous la plume géniale et incroyable de Fleming. Broccoli père tire donc sa révérence après près de 30 ans à la production de la franchise. Le personnage de Bond, durant cette période, a pris une épaisseur délirante, explosant le box-office à chaque sortie. D'abord, Sean Connery, Lazenby pour un film, Roger Moore, puis Timothy Dalton ont été ses acteurs. Pourtant, tout le monde, derrière des sourires de façade, constate que la franchise est en train de s'essouffler. C'est aussi ce qui provoque le départ du producteur historique, assurément. Sa fille récupère un empire en 1989 qui, tout comme la Grande-Bretagne, est sur la ligne de crête entre le succès et la ringardise. Son génie, à elle, c'est de l'avoir tout de suite compris. De 1989 à 1995, elle va faire disparaître James Bond des écrans de cinéma. Mourir pour renaître. Plus beau, plus grand, plus fort. Mourir pour le renouveau.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur H est au cœur de l'univers de l'espion le plus célèbre de l'histoire. 007, alias James Bond. Sous la plume de Ian Fleming et la production d'Albert Broccoli, dit Cubby, la franchise va connaître ses premiers opus, les premiers remous de la gloire et du succès. C'est l'âge d'or, en quelque sorte. Les films, chaque fois, s'efforcent d'apporter un plus à la saga et à son personnage central. De 1962 à 1989, les acteurs qui se succèdent, Connery et Moore en tête, apportent à Bond des nouveaux traits de caractère, de nouvelles amours, des failles aussi. Certains sont là pour 5 ou 6 opus, d'autres partent au bout de 1 ou 2. Mais chacun d'entre eux vient étendre la gamme de l'univers Bond. Le personnage, lui, est immortel. Les mortels qui font vivre la fiction, en revanche, eux, ne le sont pas. À l'aube de sa 8e décennie, Cuby décide donc de prendre une retraite bien méritée. Il passe les rênes à sa fille. Un beau cadeau, vous allez me dire. Oui, bien entendu, mais la rutilante machine se rouille. Et une nouvelle impulsion pour échapper à la ringardise est indispensable. Barbara Broccoli, à la suite d'une affaire judiciaire sans précédent, est contrainte de mettre l'univers Bond en sommeil. Mais rassurez-vous, c'est pour mieux revenir. Nous sommes le 16 août 1989, il est 23h. Barbara Broccoli, tenant son père par le bras, arrive au domicile londonien du clan. La première mondiale du nouveau James Bond, permis de tuer, vient de se terminer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas convaincue. Oh certes, elle aime beaucoup Timothy Dalton, l'acteur principal de la franchise, mais sur cet opus, la mayonnaise n'a pas pris. Elle s'attend de mauvais résultats au box-office. Comme un symbole, son père, par galanterie, la laisse passer devant en lui ouvrant la porte de son bureau. La jeune femme de 39 ans s'apprête à prendre les rênes d'une maison de production qu'elle connaît par cœur. Depuis sa plus tendre enfance, elle est là, sur les tournages, briefe les acteurs, reste au contact du terrain. Son père, cheveux gris gominés vers l'arrière, smoking impeccable, a l'air songeur. Il a les mains posées sous le menton. Barbara est certaine d'une chose en le regardant ce soir-là. Il a compris. Le poids des années et l'évolution de ce monde à vitesse grand V l'ont rattrapé. Il n'a plus les codes et même si déjà depuis quelque temps il lui a lâché du lest, la seule solution pour sauver la franchise, c'est une véritable passation de pouvoir. Oh, c'est loin d'être évident pour lui. Et Barbara le sait très bien. Il a consacré toute sa vie à l'univers 007. Lui a donné tout son temps, toute son énergie. Il doit néanmoins à Fleming, décédé depuis déjà bien longtemps, et à sa créature espion, toute sa célébrité, toute sa gloire. Partir, c'est renoncer en quelque sorte, même lorsque les années viennent nous rappeler notre condition humaine. Partir, c'est laisser derrière soi des souvenirs, certes, mais aussi une position, un statut. Partir, c'est devoir accepter des choix qu'on n'aurait peut-être pas pris. Partir, c'est enfin faire place nette devant la nouvelle génération et ce n'est jamais un moment facile. Son départ de la tête d'une entreprise gérée d'une main de maître pendant des décennies, c'est avant toute chose un héritage. Et alors que sa fille lui sert son verre habituel de brandy, le vieil homme la regarde avec passion, mais aussi avec un peu de tristesse. Elle va pouvoir prendre toute la place qu'elle mérite. Mais en buvant le verre qu'elle lui tend si gentiment, il le sait. Il n'est pas prêt encore à disparaître totalement du paysage. Pour Barbara Broccoli, c'est une période de cohabitation qui démarre et qui s'annonce délicate. Barbara Broccoli est une jeune femme qui a grandi dans les pas de son père, qui a pris à bras-le-corps cette passion de la production et qui, en 1989, remplace donc l'historique figure paternelle. Son influence était grandissante depuis quelques années. Après Dangereusement Vôtre, en 1985, elle est la seule à percevoir cet essoufflement en cours de la franchise. Moore est un excellent James Bond, mais ils sont tous à une fin de cycle. Elle le sent. C'est elle aussi qui suggère Timothy Dalton pour le remplacer. Sa force, c'est son côté ténébreux. Tant mieux. Barbara est de celles et ceux qui pensent que la période brushing et grand soleil, c'est terminé. Maintenant, il faut exploiter les failles de Bond. Son côté sombre. Moins dandy, moins glamour aussi. Il véhicule l'image d'un agent conscient du danger et autant froid que professionnel. Dalton, en deux films, redonne un coup de fouet à la franchise. Assez net. Pour pousser les vieillissantes idées du père dehors, mais pas assez. Pour faire redécoller totalement Bond et l'univers qui va avec. Et alors que Barbara et son frère peaufinent le scénario d'un prochain film, la justice, elle, va s'inviter dans notre histoire et laisser Bond en jachère pendant près de si longues années. Initialement, Dalton est prévu pour jouer trois films. Permis de tuer en 1989 est loin d'être un succès, bien au contraire. Les critiques sont mitigées. Les recettes au box-office sont assez mauvaises, surtout aux États-Unis. En gros, il faut rebondir. Dès 1990, on lance les pré-productions au sujet de ce 17e Bond. Il est même annoncé au Festival de Cannes, mais patatras. Un différend juridique majeur entre la société de Broccoli Père, qui n'est plus officiellement en charge de la production des films, mais reste toujours à la tête de cette entreprise, et la société de distribution, provoque une course-poursuite judiciaire digne des meilleurs films de la saga. Tentons d'expliquer l'imbroglio. La société MGM est rachetée pour 1,2 milliard de dollars. Son nouveau PDG, dans une logique de restructuration, prévoit de vendre les droits de distribution de leur catalogue à prix réduit. Mais cela comprend les films 007. Apprenant cela, la société de Broccoli intente un procès, arguant le fait que la licence viole les accords de distribution des Bond. Bref, tout ce remue-ménage ne se règle qu'à l'hiver 1992. Et le contrat de Dalton, signé en 1986, a expiré. La franchise, qui peut enfin tourner des films, se retrouve sans 007. Barbara Broccoli va d'abord tenter de ramener Dalton vers la franchise, pour qu'il puisse reprendre son rôle. Mais il refuse. C'est alors le paternel qui s'en mêle. Et après de multiples refus, parvient enfin à arracher un accord après avoir soumis à l'acteur le script de GoldenEye. Mais là encore, blocage quelques semaines plus tard. Devant la nette coupure entre les deux films, près de 6 ans tout de même, les Broccoli souhaitent une continuité dans l'interprétation de l'espion et donc que Dalton signe pour 2 ou 3 films, ce qu'il refuse catégoriquement. C'est un film ou rien pour le ténébreux British. Eh bien, ce ne sera rien alors. Les négociations sont rompues et c'est celui qui aurait déjà dû succéder à Roger Moore qui revient sur le devant de la scène pour la première fois en 1995. Pierce Brosnan. En novembre, GoldenEye sort dans les salles. Le succès est immense. Les critiques se ravissent du retour de l'espion britannique. Les entrées dans les salles sont excellentes. Pourtant, ce second souffle n'était pas gagné d'avance. Brosnan est alors un acteur dont la carrière est un peu en perte de vitesse. Il la relance totalement grâce à cette performance. Plus élégant et plus glamour que son prédécesseur, il renoue avec la tradition du grand flegme tout en évitant l'un des défauts trop souvent reprochés à James Bond, son machisme. En effet, M, pour la première fois, est une femme. Brosnan va, durant 7 ans, faire les beaux jours de la série. 4 films, espacés chaque fois de 18 mois, pulvériseront tous les records. Alors que le deuxième film avec Dalton n'avait fait entrer que 322 millions de dollars au box-office, les 4 films avec son successeur apportent des résultats probants, jamais moins de 550 millions de dollars. Sa dernière apparition, dans Meurt un autre jour, engrange, tenez-vous bien, 650 millions de dollars de recettes. Absolument dingue! Presque au niveau des grandes années sous Roger Moore. Ce qui était absolument improbable. Victoire des Broccolis et de Barbara en première ligne. On ne peut donc pas dire que le début des années 1990 ait été bon pour la franchise, car une coupure de près de 6 ans aurait pu tuer pour de bon l'agent 007. Fort heureusement, des choix stratégiques opérés par Barbara Broccoli, sous l'influence de son père, dont l'ombre plane encore sur la production, relance totalement une nouvelle fois l'intérêt pour Bond. Avec Brosnan, le public est au rendez-vous. Meurt un autre jour, qui sort en 2002, sera le dernier opus du flegmatique Brosnan. Et c'est une page qui se tourne. Et une nouvelle pause, voulue cette fois, s'impose. Rafraîchissement, renouvellement. L'héritage de Bond arrive sur les épaules d'un acteur qui va révolutionner l'univers de l'espionnage. Un certain Daniel Craig.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H qui nous occupe plonge au cœur de l'univers James Bond, l'espion de fiction le plus célèbre de l'histoire. Né sous la plume de Ian Fleming, projeté à l'écran sous l'impulsion de la famille Broccoli, cette première génération fabrique le mythe à venir. Les acteurs qui vont s'approprier le rôle, eux, lui donnent vie. Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, puis Pierce Brosnan. Chacun apporte sa pierre à l'édifice d'un personnage complexe, torturé. De flegmatique et glamour, il devient sombre et froid sous les traits de Dalton. Mais un imbroglio judiciaire totalement inattendu manque de tuer 007 pour de bon. Heureusement pour la franchise, Barbara Broccoli opère les bons choix. Sort les films de la ringardise et Pierce Brosnan redonne vie à cet espion charmeur dont le flegme est la qualité première. Après 4 films au succès de box-office impressionnant mais aux critiques parfois mitigées, Barbara Broccoli décide de confier les clés du camion à un acteur qui va révolutionner le rôle de Bond. L'espion, sous ses traits, va prendre une autre ampleur. Nous sommes le 24 février 2013 à Los Angeles. Ce soir, le Dolby Theater, magnifique structure à la hauteur du 7e art, reçoit la 85e cérémonie des Oscars. Dans un noir quasi complet, où seule la scène brille de mille feux, l'actrice Jennifer Lawrence s'avance pour prendre la parole et introduire une chanteuse dont la popularité et le talent ne sont déjà plus à prouver, Adele. Cette année marque le 50e anniversaire du premier film de la saga James Bond. À cette occasion, Barbara Broccoli et son poulain, Daniel Craig, ont décidé de frapper très fort. Assis côte à côte, ils attendent, eux aussi, les premières notes d'un morceau déjà légendaire. Le rideau en velours gris se lève. Adèle est là, triomphante, dans une robe noire pailletée. Elle semble prendre la température de la salle. Gonfle ses poumons, attend les premières mesures du piano. Les musiciens de l'orchestre, étalés en arrière-plan sur une voie lactée aussi brillante que sa robe, attendent. Le pianiste pose ses doigts fins sur les touches. Il démarre avec force ce morceau opening du dernier Bond, Skyfall. Les premières paroles surgissent des cordes vocales de la chanteuse. This is the end. Pas vraiment, en fait, pense en son fort intérieur Barbara Broccoli. Tout au contraire, Skyfall est le prolongement des premiers opus de Craig en tant que Bond, à savoir Casino Royale et Quantum of Solace. Et le suivant est le film de tous les records. Skyfall est alors le plus gros succès de l'histoire au Royaume-Uni, loin devant Avatar. Le record détenu jusqu'alors par Goldfinger pour la franchise en termes d'entrée est pulvérisé. Rendez-vous compte, plus de 50 ans en haut du trône. C'est le seul film 007 à franchir la barre des 1 milliard de recettes pour un budget initial frôlant les 200 millions seulement. Même pour Barbara Broccoli, ces chiffres donnent le vertige. Et alors qu'Adèle s'époumonne sur le dernier refrain du morceau déjà iconique, Barbara pense à son père décédé depuis déjà 15 ans. En se tournant vers son acteur vedette, Elle ne peut retenir une larme de fierté et de joie. Oui, oui, ce succès est le sien, celui de ses bons choix répétés. Mais sans Daniel Craig, rien n'aurait été possible. Il est l'incarnation parfaite de l'espion 00 comme elle l'a toujours, elle, imaginé. Sombre, torturé, froid, calculateur. Incontestablement, ce soir de 2013, Barbara Broccoli voit en lui l'avenir d'une franchise qui ne cessera de surprendre. Daniel Craig, du haut de son 1m78, ses cheveux courts blonds vifs et ses muscles plus que saillants, a rejoint la franchise le 14 octobre 2005. Il est le 6e des espions, certainement le plus abouti. C'est aussi le seul acteur avec Moore à être né sur le sol purement anglais. Tous les autres viennent des îles britanniques. Le choix de Barbara Broccoli au moment de sa nomination est loin de faire l'unanimité. De nombreuses polémiques vont voir le jour. Il faudra l'adoubement médiatique du pape Sean Connery pour calmer les esprits. L'aventure peut alors commencer. Casino Royale est le premier des livres écrits par Fleming. Son adaptation en 2006 seulement suscite beaucoup d'attentes dans le microcosme des fans de l'espion et de son auteur. Ce premier film est assurément à double tranchant pour Craig, qui se retrouve au cœur des débats. Mais alors que l'on aurait pu s'attendre à une poudrière lorsqu'il enfile son tout nouveau smoking, il n'en sera rien. Bien au contraire. Les critiques à la sortie du film sont bonnes et les résultats financiers très encourageants. Alors que la franchise espère capitaliser sur ce bon départ, Quantum of Solace, qui sort 2 ans plus tard, fait, lui, un léger flop. Pas financier, certes, mais dans les critiques. Barbara Broccoli est irritée, bien entendu, et décide de peaufiner dans les détails la sortie suivante. Ce sera Skyfall et le raz-de-marée qui l'accompagne. Tonitruant succès, interprétation magique de Craig et la confirmation de la naissance d'un nouveau Bond. Celui de l'esprit tortueux et des missions plus dangereuses, plus personnelles aussi. Celui d'un espion fatigué par le poids des années de service et plus humain, moins invincible qu'il n'y paraît avec ses prédécesseurs. Et ce virage plaît assurément. Comme prévu, 2 autres films avec lui verront le jour. Spectre et Mourir peut attendre. Craig, comme beaucoup d'autres avant lui, décide de ne pas prolonger l'aventure au-delà de son premier contrat. Fatigué par ses longues productions et par le rythme de vie imposé par l'incarnation de 007. Barbara Broccoli se trouve donc aujourd'hui à devoir négocier un nouveau virage. Et ce d'autant que, spoiler alerte, Bond est mort dans le dernier film. Alors quoi ? Raconter les jeunes années de 007 ? Trouver un remplaçant au matricule le plus célèbre de l'histoire ou potentiellement une remplaçante ? Le chantier est immense. Et 1 an après la sortie du film, aucune annonce officielle n'a été faite. Les bookmakers se déchaînent. Et de Henry Cavill à Idris Elba en passant par Tom Hardy, aucun potentiel interprète ne semble se détacher. Mais il ne fait aucun doute qu'en faisant mourir 007, Barbara Broccoli avait derrière la tête, dès le départ, une idée qui n'est pas encore sortie du bois. À nous de l'attendre avec impatience pour juger, une nouvelle fois, de la fiabilité de l'empire qui entoure cette figure devenue mythique de James Bond. Et je vous propose de nous quitter aujourd'hui avec une citation qui résume finalement bien l'état d'esprit entourant cet univers. Barbara Broccoli s'exprime alors à la sortie de Skyfall, le fameux. Nous sommes en 2013. Après la cérémonie des Oscars, elle déclare ceci. J'aime toujours ça, tous les jours. Je me lève et j'aime aller au travail. J'aime voir tout cela se produire et j'admire les gens avec qui nous travaillons. J'espère simplement que les films continueront à divertir le public comme ils le font depuis 50 ans. C'est ce qui explique sans doute le fait qu'elle, plus encore que n'importe qui d'autre, peut-être même plus que son père, a fait James Bond. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.